Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, la martingale Picasso.
La martingale. Pourquoi Picasso est partout, tentait d'expliquer justement le journal du dimanche il y a une semaine. Question pertinente, hein, tant le nombre d'expositions consacrées à l'artiste a tendance à grimper de manière exponentielle, oui, ces derniers mois, plus encore dans ceux à venir. Outre Paris, où ce sont déjà au moins deux expositions majeures, hein, Olga Picasso au musée du même nom et Picasso primitif au Quai Branly, Rouen et sa région, où Picasso a séjourné 5 ans, en accueilleront aussi 4, ajoute France Bleu Normandie, si l'on compte effectivement cet atelier de sculpture qu'était le manoir de Boisgelou dans l'Eure, ouvert pour la première fois cette année au public. 6 expositions de Rouen jusqu'à Paris, voire déjà 7, car même l'aéroport Charles de Gaulle présente 35 œuvres dans une exposition qui s'appelle Picasso plein soleil. Alors pourquoi cet engouement alors qu'on n'est même pas une année anniversaire Picasso? Il est vrai que l'intérêt n'est pas seulement français, on est quand même au 80e anniversaire de Guernica, ce qui fera l'objet d'une exposition spéciale au musée Reina Sofia de Madrid. Pour les autres, s'agit-il seulement d'une coïncidence ou d'une bonne manière d'occuper le terrain de l'été culturel, comme le note actu.fr? Il y a deux raisons à cela, selon le JDD. D'abord, la volonté nouvelle du musée Picasso de Paris, rouvert en 2014, vous le savez, de son directeur Laurent Lebon, ancien du centre Pompidou-Metz. C'est lui qui a impulsé en grande partie la déferlante d'expositions à venir, explique le JDD. D'ailleurs, dans Connaissance des Arts, fin janvier, Guy Boyer annonçait le lancement d'un programme Picasso Méditerranée 2017-2019. Méga projet, dit-il, ça fait un peu penser à la Commission européenne, étalé sur 3 ans, avec des expositions dans 60 institutions, parmi lesquelles des musées à Naples, à Rome, Barcelone, Marseille, Montpellier, Antibes, Arles, Avignon, Toulouse. Le chiffre reste encore un peu flou aujourd'hui, mais selon les Échos, ce serait 36 expositions, c'est déjà pas mal. On devrait trouver aussi Chypre, la Grèce, Malte, la Turquie, le Maroc, c'est à confirmer. Pour le Maroc, non, ça s'est fait depuis lundi. Et puis Picasso attire toujours, note le JDD, la petite Pinacothèque de Malaga qui s'est vue prêter 166 œuvres sur 3 ans par les héritiers espagnols et le musée le plus visité d'Andalousie avec près de 560 000 visiteurs en 2016. C'était 212 000 visiteurs pour l'exposition Picasso, un génie sans piédestal au Mucem en 2016. Je cite ce chiffre parce que c'est autant que pour Marseille, capitale européenne de la culture. Auprès de Laurent Lebon, d'ailleurs, j'ajoute qu'on retrouve Émilie Bouvard, l'ancienne commissaire de l'exposition Picasso et les maîtres, là en 2009 au Grand Palais. Alors l'argument ne serait-il qu'économique? Laurent Lebon, comme directeur d'un musée national qui regroupe une grande partie des collections et fait aussi une grande partie des prêts, invoque bien sûr l'impératif de diffusion des œuvres, 1600 prêtées l'année dernière, mais aussi le souci d'une cohérence, hein, il le dit, une grande saison autour de la Méditerranée qui insuffle sens et dynamique du Maroc à l'Italie. Ainsi l'exposition au MoMA à Rabat. Effectivement, quant à la cohérence, on peut classer ces expositions, je dirais, en 3 genres. Celle qui renvoie à la présence de l'artiste en un lieu ou à une matière, celle qui tente d'éclairer une période et celle qui le font dialoguer, ou en tout cas dialoguer ses œuvres avec d'autres œuvres. À cet égard, 2 se répondent bien, en croire Olivier Sénat dans Télérama. Olga Picasso, qui tente d'expliquer le passage du classicisme au surréalisme, hein, l'abandon même du classicisme, par la relation assez dure à Olga à l'époque, la danseuse classique justement, et Picasso primitif, lui qui tente d'explorer la relation de fond que Picasso entretient avec l'art premier. C'est d'ailleurs l'argument esthétique mis en avant par Judith Benamou dans Les Échos en avril, au moment du prêt à Malaga, citant Bernard Ruiz Picasso, le petit-fils de Pablo et d'Olga. D'une certaine manière, dit-il, Picasso est un outil qui permet de comprendre une grande partie du XXe siècle, une vision de l'histoire bien utile en cette période tourmentée. J'ai presque oublié de dire qu'il y a près de 60 000 créations de Picasso, dont 25 000 peintures et dessins. Alors, renflouer ou renforcer des caisses de musée ou proposer des visions innovantes, à quoi va servir cette débauche d'exposition?
Oui, de l'avantage d'avoir énormément produit tout au long d'une longue carrière, c'est qu'effectivement, on peut en faire 36 ou 360 en même temps dans le monde entier. L'expo Picasso, ça ne manquera pas de matière. Bon, et puis il y a quand même la qualité de la production, hein, parce que le nombre, il y en a d'autres aussi. Picasso et les maîtres, Picasso Mania, l'épidémie est quand même déjà ancienne. Et c'est vrai que le musée Picasso Paris joue beaucoup de cette politique de prêt, et on comprend très bien pourquoi, ça sert à beaucoup de choses et à financer aussi pas mal de choses. Allez, Florian Guettet pour commencer en réaction à cette Picasso manie qui est vieille, hein.
Oui, qui est vieille. C'est un cas d'école, Picasso, en fait. C'est un cas d'école pour les écoles d'art, mais aussi pour les écoles du marché de l'art. Je trouve qu'effectivement, il fait partie de toute une tendance au branding culturel où on va s'appuyer sur un nom plus que sur le contenu des expositions. Il y a une forme de clientélisme, évidemment, qui est poursuivie dans ce choix de curatorial. C'est sûr qu'on voit justement Picasso Mania qui faisait 400 000 entrées. Eh bien, ça fait envie, hein. Ça justifie beaucoup de choses. C'est devenu une sorte de produit culturel de masse. Et je suis pas sûr que ça serve véritablement le mythe, puisque j'ai l'impression que c'est devenu un peu une sorte de marronnier pour beaucoup de gens, et que dans le monde de l'art ou professionnel de l'art, eh bien ça a tendance à le discréditer. J'ai l'impression, d'ailleurs, on a fait des enquêtes d'opinion auprès des artistes sur Picasso, sur les grands maîtres, sur leurs références. Et évidemment, Picasso est un incontournable et cité comme tel, mais il est plutôt mal aimé. C'est-à-dire qu'il est jamais, c'est plutôt une sorte de figure repoussoire plutôt qu'une vraie un vrai maître qu'on suit. J'ai l'impression même que c'est une sorte de passage obligé pour aujourd'hui les artistes que de devoir tuer ce père du modernisme. Alors, on l'a dit, effectivement, le nombre de ces productions est inépuisable, presque, hein, 60 000 œuvres, mais alors, j'avais une autre donnée, c'est le musée Picasso, qui a quand même 300 000 pièces d'archives. Donc là, on comprend effectivement que Laurent Lebon soit très actif, et on peut saluer son volontarisme, effectivement, il a envie de faire voyager ses collections, il déploie une stratégie pour, et il réussit, forcé évidemment de le constater. Moi, ce que je regrette, c'est que ça se fasse sûrement au détriment de la qualité du projet scientifique autour de ces expositions-là, que je trouve souvent superficielles. Par exemple, j'étais assez étonné de voir qu'on n'avait pas eu une vraie exposition sur la période cubiste de Picasso, qui semble pourtant être quand même quelque chose d'assez entendu, assez courant, et bien avant les années 2000 et 2007 plus précisément, donc c'est quand même fou. Cette année, on parlait d'Olga, on en a parlé sur cette antenne, c'était quand même la première fois qu'on avait une exposition qui était consacrée à cette muse, malgré tout importante, puisqu'elle était la première femme de Picasso. Voilà, moi je suis assez mitigé sur ça. Je pense que si on privilégiait la qualité à la quantité, on s'en sortirait un peu mieux. Effectivement, de toute façon, c'est pas nouveau. Les statistiques en 2007, donc il y a 10 ans quand même, c'était pareil, une quarantaine de grandes expositions internationales consacrées à Picasso. Donc finalement, c'est une tradition qui persévère. Et on n'a pas besoin effectivement d'attendre d'avoir des anniversaires. J'étais assez surpris de voir, je crois que c'est Picasso Mania qui célébrait le 125e anniversaire de la naissance. Donc là, ça devient un petit peu absurde.
C'est absurde, mais et puis il y a aussi toutes ces confrontations. Alors, Matisse Picasso, logique. Picasso, Giacometti, c'était peut-être plus surprenant. C'était tout récemment encore Musée Picasso. Mais voilà, il y a aussi
Picasso
tous ces...
Braque, c'est quand
Picasso
même essentiel.
Braque, ce qui n'est pas rien. Enfin, là aussi, on peut décliner pendant un certain temps Anaël Pijat. Mais alors, le problème, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on perd pas un peu d'appétit? Alors, bien sûr que c'est un immense artiste, mais avec cette sensation que encore une expo Picasso, on parlera de Picasso primitif dans un instant, comment vous le vivez en tant que critique d'art?
Je vais partir dans une autre direction, parce que c'est plus drôle.
D'accord, je vais sortir du studio, moi.
C'était pas du tout ce que je voulais dire. Mais non, bien sûr, évidemment qu'il y a un syndrome 7 de table dans la... Je peux pas parler de réception, mais en tout cas dans la manière dont on peut voir des œuvres de Picasso passer dans des boutiques de musées aux prises uniques des années 60. Non, enfin bon. En tout cas, je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a une chose nouvelle qui se passe. C'est-à-dire que il y a un changement de génération dans les exégètes de Picasso. Je ne sais pas si c'est lié à la vague complètement folle qui vient d'être décrite. Mais en tout cas, la première génération des exégètes de Picasso sont ceux qui l'ont connu. Elle a été suivie par les disciples de ces gens-là. Et aujourd'hui, il y a une génération nouvelle, que ce soit Laurent Lebon au Musée Picasso à Paris, que ce soit Emmanuel Guigon à Barcelone. Et ce sont aussi des profils de conservateurs ou de directeurs de musées qui ne sont pas des picassiens depuis 30 ans. Or, j'ai encore le souvenir d'une époque où le Musée Picasso était géré par des gens qui vivaient avec Picasso depuis 30 ans. Ce qui avait d'ailleurs quelque chose ce qui avait d'ailleurs quelque chose de totalement fascinant et qui faisait partie du mythe, en tout cas à mes yeux, de Picasso. Mais donc peut-être que cette ouverture des exégètes et pour quelque chose aussi dans ce sujet-là. Et puis l'autre aspect évident de la situation, c'est que l'ampleur de l'œuvre de Picasso, enfin Picasso est un cas d'école comme vous le disiez Florian pour les étudiants en politique culturelle, mais sur le fond et la nature de son œuvre est aussi une chose tellement folle qu'elle est tellement diverse et tellement pharaonique qu'elle a de quoi nourrir toutes ces expositions. Et au fond, c'est une question du niveau d'exigence auquel on se place. Bien sûr qu'il y a des mauvaises expositions Picasso qui sont conçues pour faire de la billetterie et celles-là ne nous intéressent pas. Mais il y a aussi un grand nombre d'expositions qui aujourd'hui sont d'une actualité extraordinaire et des angles entiers de son travail qui n'ont pas encore été explorés. On parlera tout à l'heure de Picasso primitif, mais cette exposition peut s'insérer dans des débats actuels, dans le rapport que nous avons aux arts primitifs, avec une contemporanéité extraordinaire. Et l'œuvre de Picasso, à mes yeux, a cette richesse-là qui permet de nourrir des expositions encore pour quelques dizaines d'années. L'autre chose, enfin, dans le descriptif que vous faisiez, Xavier, c'est que le fait de l'ouverture des collections, la libération, en quelque sorte, de Picasso par cette nouvelle génération de conservateurs et de directeurs de musées, qui a pour effet aussi de faire circuler les œuvres, me semble assez intéressante. L'exposition du Maroc qui vient d'ouvrir après beaucoup de péripéties, qui a été très retardée, dont l'ouverture a été très retardée et qui a ouvert il y a quelques jours. C'est très intéressant, c'est très surprenant d'imaginer que c'est la première exposition de Picasso qui ouvre ses portes au Maroc. Pour toutes les écoles d'art, pour tous les jeunes artistes qui sont installés là-bas, et ils sont nombreux, je pense que ça aura des effets et que c'est une chose qui est intéressante à observer.
Xavier Martinet ?
Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que ça me semble tout à fait exact ce que vous dites, Anaël. Disons, ce côté renouveau de la politique muséale, effectivement, avec certains grands directeurs de musée, enfin grands, disons, jeunes directeurs de musée, disons-le comme ça, dans le paysage français, vous avez cité Laurent Lebon. Bien évidemment, c'est lui qui dit « Notre musée a rouvert en 2014 », Picasso offre une œuvre qui se renouvelle sans cesse. Notre rôle consiste à inviter des historiens qui vont porter un regard inédit sur sa création. C'est exactement ce que vous disiez. Vous avez parlé d'Emmanuel Guigon, qui est au musée de Barcelone désormais. J'ajouterai peut-être Jean-François Chouinet, qui est au MUCEM depuis 2014 également. Avec cette volonté d'ouverture, on le voit, c'est l'exposition de Giacometti qui vient pour la première fois là en ce moment à la Doha Fire Station, donc au Qatar. Là-dessus, il y a effectivement au moins, si ce n'est déjà un renouvellement effectif du regard, en tout cas une volonté de décloisonner, d'amplifier. C'était assez clair déjà, il me semble, à l'époque dans ce qu'on entendait dire du ministère de la Culture et de ce qu'il voulait pour le musée Picasso dans cette fameuse époque de transition en 2014.
Florian ?
Oh, pas grand-chose, mais simplement, ce serait quand même bien d'interroger, à savoir si on peut se trouver d'autres origines aussi pour le contemporain, si on peut aussi, parce qu'il y a quelque chose d'assez exclusif quand même dans la représentation de Picasso dans le paysage muséal aujourd'hui, qui me semble moins regrettable. Et j'attends avec aucune impatience le sac Vuitton à l'effigie Guernica.
Bon, aucune impatience. En effet, on va reparler de Picasso dans un instant. Pour l'heure, on ferme les portes du petit salon.